Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal avec Babel Mpongo Masimango.
Bonjour, à la une, Cannes, bien sûr, avec la qualification des Léopards, la huitième de finale avec leur victoire hier contre le Botswana. Vous suivez aussi le vice-premier ministre de l'économie nationale qui est revenu hier sur le bradage de ressources minières congolaises par le Rwanda. Et pour Moukoko Samba, l'accord stratégique avec Washington permettra de mettre fin à ce pillage. Une vingtaine de radios et médias en ligne de Bounia suspendent pour 3 jours leurs activités au programme d'information. C'est la deuxième journée déjà. Ils plaident pour plus de sécurité, notamment pour les journalistes. En invité Hubert Tepa Tondele, directeur provincial de l'Institut national de préparation professionnelle au Maniema, son institution mène une campagne pour amener plus de filles dans les métiers perçus comme à connotation masculine. Merci de suivre Radio Kapi. Cannes Maroc 2025. Les Léopards de la RDC se sont qualifiés pour la huitième de finale après leur large victoire face aux Zèbres de Botswana 3-0 ce mardi à Rabat. Ce match comptait pour la troisième et dernière journée du groupe D. À la 31e minute, c'est Meshak Elia qui a ouvert le score. Gaël Kakuta a signé en doublé à la 41e sur penalty, ainsi qu'à la 61e sur une passe de Théo Bongonda. Le 4e but de la RDC, marqué par Fisto Maele de l'épaule, a été annulé. Les Léopards terminent donc 2e du groupe D avec 7 points plus 4 derrière le Lion du Sénégal, victorieux eux aussi face au Guépard du Bénin 3-0. La RDC affrontera l'Algérie le 6 janvier prochain. Nous quittons le football pour parler économie. Le vice-premier ministre ministre de l'économie nationale accuse le Rwanda de bradage de ressources minières congolaises. Moukoko Samba a formulé ses allégations lors du briefing de presse organisé hier mardi avec son collègue de la communication et médias Patrick Muyaya à Kinshasa. Il assure que l'accord de partenariat stratégique entre Kinshasa et Washington va mettre fin à ce pillage qui fait du Rwanda l'un des principaux exportateurs d'or en Afrique. Les propos de Moukoko Samba sont recueillis par Blaise Chinda.
Parlons du coltan. Le monde tourne aujourd'hui dans l'année avec 2000 tonnes de coltan pour que nos téléphones, nos gadgets, nos iPads, nos tablettes puissent fonctionner. Et près de la moitié de cette production vient de la RDC. Mais vient de quel type de mine? La mine de Rubaya, qui fournit une grande quantité de coltan dont le monde a besoin. Est-ce qu'on va continuer à l'exploiter dans ces conditions? Est-ce qu'il est normal que des pays voisins qui ne sont pas producteurs majeurs de l'or soient devenus des principaux exportateurs de l'or? En Afrique, tout le monde sait que c'est de l'or qui vient de la RDC. C'est ça le vrai pillage qui se déroule depuis quelques décennies. Des chiffres crédibles qui sont connus depuis quelques jours indiquent que depuis fin janvier, les exportations rwandaises de coltan ont augmenté de 213% entre janvier et juin. C'est ça le bradage, c'est ça le pillage. Et cet accord a justement pour objectif de mettre un terme à ce pillage en remplaçant le régime actuel de prédation auquel se livrent certains acteurs de la région par un régime où il y a des vrais investisseurs dans des mines sérieuses, dans des mines qui respectent toutes les normes.
Et Moukoko Samba assure que les discussions démarrent dans 3 mois entre Kinshasa et Washington. Elles vont porter sur des projets stratégiques visant le développement économique, la paix et la protection de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Sur instruction du gouvernement, le comité de suivi de la paix des agents et fonctionnaires de l'État CSP a tenu lundi à Kinshasa une importante réunion de concertation avec l'ensemble d'intervenants de la chaîne de paix. C'est dans le but de garantir le bon déroulement du paiement des salaires de ce mois de décembre qui se clôture déjà aujourd'hui. Cette rencontre stratégique a réuni les banques commerciales, les opérateurs de la paix, le service technique concerné notamment l'ordonnancement et la direction de la paix ainsi que les représentants des bénéficiaires. L'essentiel de cette rencontre avec vous, Blaise.
Cette réunion s'inscrit dans le cadre du suivi rigoureux des engagements du gouvernement congolais consécutifs aux préoccupations exprimées par les agents et fonctionnaires de l'État. À l'issue des échanges, il a été confirmé que le processus de paye a démarré depuis le 19 décembre courant et concerne 3 secteurs stratégiques, à savoir les forces armées, la police nationale et les enseignants auxquels s'ajoutent les personnels de santé. Ces différentes catégories bénéficiaires reçoivent déjà de manière progressive leurs rémunérations. Le comité a fait savoir que conformément aux aux instructions du gouvernement, toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour que l'ensemble de la paye soit exécutée avant le 1er janvier 2026, en dépit de certaines contraintes logistiques, notamment l'état des routes dans plusieurs zones de l'intérieur du pays, rendant l'acheminement des fonds difficile. Intervenant à cette occasion, le président de Seyan a rappelé les facteurs ayant occasionné un léger ralentissement du processus avant d'exhorter les banques commerciales à redoubler d'efforts afin de servir les agents publics avant le 31 décembre, période marquée par les festivités de fin d'année. Des descentes de terrain sont envisagées afin de s'assurer du bon déroulement du processus de paye au niveau des banques commerciales et autres opérateurs dans le but de garantir la transparence et l'efficacité de l'opération.
À travers le pays, plusieurs assemblées provinciales ont clôturé leur session ordinaire de septembre lundi sous le cadre de la Tchopo. À cette occasion, le président de l'assemblée provinciale, Mathéus Kanga, a appelé le gouvernement provincial à multiplier des stratégies afin de répondre efficacement aux besoins de la population en 2026. Notez que cette session a été marquée par une intense activité politique et une abondante production législative, comme nous l'explique ici Jacques Mukonkole depuis Kisangani.
Du point de vue législatif, la session de septembre aura été féconde. Plusieurs textes, dont un édit réglementant les barrières, ont été adoptés. 5 moyens de contrôle, dont 4 pétitions, ont été initiés. Ces faits, assimilés à une crise politique par d'aucuns, sont qualifiés plutôt par Mathéus Kanga comme une expression d'une démocratie vivante.
Bien que sensibles, ils doivent plutôt être perçus comme l'expression naturelle d'une démocratie vivante, où la transparence et la reddition des comptes sont la règle. Ils témoignent de notre engagement à construire des institutions fortes, fondées sur les principes démocratiques.
Sur le plan budgétaire, le président a fait un constat alarmant. Moins de 15% de mise en œuvre du budget au premier semestre 2025, tant en recettes qu'en dépenses. Il appelle à une prise de conscience collective pour redresser la situation.
Nous nourrissons l'espoir que pour l'exercice 2026, l'exécutif provincial saura multiplier les stratégies innovantes, renforcer les mécanismes de mobilisation et de gestion des ressources, afin d'obtenir des résultats positifs et tangibles au bénéfice de notre population.
Par ailleurs, Mathéus Kanga exhorte ses collègues à redevenir des élus de proximité, porteurs d'un message de cohésion et de responsabilité. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Et au Maniema, le vice-président de l'Assemblée provinciale qui assure l'intérim du président en mission a salué lors de la clôture de la session lundi à Kindu l'engagement des députés pour avoir doté la province d'un budget censé répondre aux préoccupations de la population en 2026. L'Assemblée provinciale a également adressé ses vœux à la population du Maniema. Elle a invité à continuer à soutenir la vision du chef de l'État. Florence Kizalunga a assisté à cette dernière plénière.
Le vice-président de l'Assemblée provinciale indique que la session ordinaire de septembre, essentiellement consacrée au budget, a permis aux députés provinciaux d'adopter l'outil financier de la province. Théophile Bouléli-Docta.
J'ai saisi de cette occasion pour jeter des fleurs de sincères félicitations aux honorables députés pour la qualité du travail abattu et de s'être acquitté de ses devoirs sacrés d'autorité budgétaire en dotant le gouvernement provincial d'un outil indispensable pour résoudre les problèmes des populations.
Théophile Bouléli a également annoncé la convocation prochaine d'une plénière extraordinaire consacrée à la présentation des rapports d'enquête de contrôle.
4 commissions d'enquête pour contrôler la gestion de quelques services publics en province ont été instituées. Compte tenu du temps accordé à toutes les commissions, les rapports n'ont pas été examinés en plénière. C'est pourquoi le bureau vous annonce la convocation d'une éventuelle session extraordinaire très prochainement afin d'épuiser toutes les matières restées en souffrance.
Le vice-président de l'organe délibérant du Maniema a enfin invité les députés à retourner dans leurs bases respectives pour recueillir les préoccupations réelles de la population qu'ils présenteront à leur retour. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Direction en Litouri, une vingtaine de radios et médias en ligne opérant depuis la ville de Bounia suspendent pour 3 jours leurs activités au programme d'information. Cette mesure, qui en est à son 2e jour ce mercredi, vise à dénoncer les exactions répétées contre les journalistes, des faits attribués aux personnes non autrement identifiées, mais dont le but est de museler la presse. Les professionnels des médias exigent du gouvernement le renforcement de la sécurité pour les communautés locales, y compris les journalistes. Isaac Raymond, vous qui êtes sur place à Bounia, comment cette première journée a été vécue sur place?
La population de Bounia s'est réveillée mardi matin dans un silence inhabituel. La plupart des radios n'ont pas diffusé leur programme habituel, tandis que d'autres ont suspendu leurs journaux d'information et les flashs d'actualité. À l'antenne, seule la musique est diffusée en mémoire de leur confrère Thierry Lolé, tué atrocement à son domicile dans la nuit de dimanche à lundi à Bounia par des individus armés non identifiés. Pour les associations de défense des droits des journalistes, cet acte odieux illustre la volonté des ennemis de la République de réduire la presse au silence. Ces trois journées de silence radio visent ainsi à interpeller les autorités compétentes afin qu'elles assument pleinement leurs responsabilités dans la protection efficace des civils et particulièrement des professionnels des médias dans cette entité en proie aux conflits armés depuis 2017. Constance Samé Bagalois, rédacteur en chef de la radio communautaire Les Rébâtisseurs et directeur du média en ligne Bounia News.
Si on commence à tuer les journalistes, notamment notre confrère qui a été assassiné, si on commence à inquiéter les journalistes, si on commence à menacer les journalistes, donc les autorités doivent jouer pleinement leur rôle. La protection des droits humains doit être démise. Et quand on protège un journaliste, c'est qu'on protège toute une communauté.
Par ailleurs, plusieurs radios de l'intérieur de la province affirment vouloir également observer ces trois journées de silence radio sur la quarantaine des stations que compte la province de l'Ituri. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Au Sud-Kivu, on a enfin des nouvelles du journaliste Honneur Safari, dont la disparition depuis dimanche a suscité beaucoup d'inquiétudes. Le confrère est finalement détenu dans un cachot de l'AFC 123 à Bukavu. L'information est confirmée par la présidente du bureau de coordination de la société civile du Sud-Kivu. Néné Bintou déplore les atteintes persistantes à la liberté de la presse, aussi bien dans les zones de la province passées sous contrôle des rebelles que dans celles encore administrées par le gouvernement. Elle appelle à la protection des journalistes et au respect de leurs droits fondamentaux. Néné Bintou explique la situation.
Il est détenu au cachot de la DCR, donc la Direction pour la Sécurité et le Renseignement, donc ANR comme une dénomination de l'AFCM23. Les motifs, nous avons appris que c'était suite aux articles publiés par la plénière RDC, donc son média, par rapport à la marche forcée de la population au niveau de Goma, au niveau d'Uvira. Et on sait comment cette manifestation aussi a été organisée à Bukavu. Et donc, nous avons fustigé par la même occasion, parce qu'il n'est pas le premier à être arrêté. Il y avait déjà avant lui un des douaniers de la société civile en la personne de Ouma, d'Italia, le cordeau national de l'APC, une structure qui travaille pour la consolidation de la paix depuis longtemps. Nous avons noté aussi des cas d'autres collègues arrêtés dans les zones contrôlées par le gouvernement, à Fizi, à Baraka, et d'autres qui sont inquiétés à Ibanda, à Kadutu. Et pour nous, c'est vraiment inacceptable. La société civile est apolitique, elle ne mène pas une lutte armée, elle est indépendante dans sa manière d'agir, de réfléchir.
Nous restons au Sud-Kivu. La situation est restée confuse hier mardi au village Touchou-Ngouti-Centre, groupement Ziralo, territoire de Kalehe. Selon des sources locales, cette tension se suit au meurtre d'un habitant dans la zone par un élément armé assimilé au Wazalendo Kirikicho. Retour sur les faits avec Ronéline Tibonera.
Mardi matin, le domicile du chef de groupe Maziralo a été assiégé. Les habitants, en colère, sont venus exprimer leur exaspération face à l'insécurité devenue monnaie courante dans la zone. Ces hommes et femmes se disent abasourdis par les silences des autorités face aux exactions commises par des hommes armés assimilés au Wazalendo, dont ceux du groupe Kirikicho. Selon un acteur de la société civile, ces hommes armés se rendent tristement célèbres en volant et en commettant divers actes réprimés par la loi, dont le meurtre. Revenant sur les drames de lundi soir, cet acteur indique que la victime était un journalier chargé de la garde d'un dépôt du CICR dans la zone. Il révèle qu'après ses meurtres, la population s'est lancée à la poursuite du présumé auteur qui a été également tué. Cette information est confirmée par des notables de la région. Ils appellent les autorités du Sud-Kivu à tout mettre en œuvre pour mettre fin aux agissements de certains porteurs d'armes dans la zone. Ils plaident pour un contrôle strict des armes et des unités du groupe Mai Mai Kirikicho.
Le réseau des ONG de défense des droits des déplacés internes en RDC, Rodi RDC, lance un appel pressant à la solidarité. Il s'adresse au gouvernement congolais, à la Conférence épiscopale nationale du Congo, à l'Église du Christ au Congo, aux autres confessions religieuses ainsi qu'aux agences des Nations Unies. Il plaide pour qu'une assistance urgente soit apportée aux déplacés internes disséminés à travers le pays. Dans un communiqué publié lundi et parvenu à Radio Okapi, le coordonnateur du réseau appelle le gouvernement et ses partenaires à renforcer les mécanismes nationaux de réponse humanitaire. Il demande aussi d'allouer des ressources conséquentes pour venir en aide aux millions de déplacés internes, majoritairement des femmes et des enfants. L'appel des Symphoriens à Kwengo, au micro d'Alain Rong.
La RDC fait face à l'une des crises de déplacement interne les plus alarmantes au monde. Des milliers de Congolaises et Congolais, majoritairement des femmes, des enfants, des personnes âgées et des personnes vivant avec handicap, vivent dans une précarité extrême, privées des moyens de subsistance, des logements décents, des soins de santé et d'une alimentation suffisante. En cette période cruciale des fêtes de fin d'année, marquée par des valeurs de partage, de compassion et de solidarité, la situation des déplacés internes demeure particulièrement préoccupante, notamment dans les provinces de Kinshasa, Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Tanganyika, Kwango, Kwilu et Maindombe, où des milliers de familles survivent dans des conditions inhumaines. L'érudit RDC appelle à une mobilisation urgente et coordonnée pour fournir une assistance en vivre et non vivre.
Nous sommes à Matadi, dans le Congo central. Toutes les églises et autres structures prévoyant d'organiser des réveillons ou toute autre manifestation publique pendant cette période devront impérativement en informer la mairie de la ville. Dans une déclaration faite hier à l'issue d'une réunion du Conseil urbain de sécurité, la mairie a expliqué que cette mesure s'inscrit dans le cadre des instructions des autorités provinciales et nationales afin de garantir un climat de paix en cette période festive. Dominique Kodiambete, le maire, interdit également l'usage des pétards durant les festivités de fin d'année. On les potentiel pour recueillir par Nana Plurich Mambo.
Nous avons tenu notre réunion du comité urbain de sécurité au niveau de la ville. Nous avons insisté sur l'application stricte du message officiel de notre ministère des titelles. C'est la vice-primature de l'intérieur du 13 décembre 2025. Là, dans ce message, le vice-premier ministre de l'Intérieur nous a donné des instructions sur l'interdiction de l'utilisation des pétards pendant cette période des fêtes. Et puis comment gérer les manifestations publiques pendant cette période dans les églises, dans partout là. Et à notre niveau, nous demandons strictement à notre population, pendant cette période, l'utilisation des pétards est strictement interdite. Et pendant cette période également, les pétards là qui font beaucoup de bruit, parfois comme des tirs d'armes, ça peut créer de la confusion. Vous croyez que là-bas c'est la fête alors que c'est autre chose. Également, même pour ce qui concerne les églises, vous voulez organiser la veillée de prière le 31, il faut nous informer pour qu'à notre niveau nous puissions prendre toutes les dispositions. Parce que si nous ne sommes pas au courant qu'il y a veillé à gauche, à droite, en cas de problème, nous pouvons toujours être en retard pour intervenir.
Actualité internationale.
Traversons le fleuve au Congo-Brazzaville, les 3000 participants au 6e congrès du Parti congolais du travail au pouvoir, PCT, ont investi hier soir le président Denis Sassou Nguesso, 82 ans et plus de 40 années cumulées de pouvoir, comme candidat à la présidentielle prévue en mai 2026. Et puis en Guinée, le général Mamadi Doumbouya est élu président de la République le premier tour avec près de 87% de voix, 4 ans après le coup d'État qu'il a porté au pouvoir. Des résultats provisoires ont été proclamés hier soir par la direction générale des élections.
L'invité.
L'Institut national de préparation professionnelle INPP Maniema sensibilise la communauté, en particulier la jeune fille du Maniema, à embrasser des métiers à connotation masculine. Ceci dans le cadre d'une campagne de sensibilisation sur la promotion du genre et l'inclusion sociale en formation professionnelle. Pour en parler, nous recevons comme invité Hubert Tepa Tondele, directeur provincial de l'INPP et Maniema. Il s'entretient avec Florence Kisalunga.
Monsieur Hubert Tepa Tondele, bonjour.
Et bonjour, madame la journaliste.
Monsieur Hubert, quelles sont les motivations de l'INPP Maniema aujourd'hui de s'intéresser sur la promotion du genre et inclusion sociale en formation professionnelle?
Oui, merci beaucoup, madame la journaliste, pour cette question. C'est vraiment important. L'INPP, au travers de sa direction générale, dirigée par le DG Godefroy Stanislas Chimangawa Mutuabu, en partenariat avec l'Agence française de développement, AFD, ont jugé bon pour implémenter la vision du chef de l'État et pour le développement même de ce pays. Ce qu'on a trouvé jusqu'à là, c'est souvent la femme qui est souvent marginalisée, et la femme aussi, elle-même, ne s'intègre pas dans la formation professionnelle à connotation masculine. C'est ainsi que, à ce niveau stratégique, la haute hiérarchie de l'INPP l'ANPP avec l'Agence française de développement ont jugé bon que nous puissions lancer cette campagne afin d'intéresser la jeune fille et la femme en général d'embrasser le métier à connotation masculine.
Et quelles sont les statistiques pour la représentativité des femmes au sein de l'INPP Maniema?
Oui, en fait, en matière de formation, nous avons constaté que les jeunes filles ou la femme en général ne s'intéressent pas vraiment à des formations, d'une manière générale, à des formations professionnelles. Pourtant, au niveau secondaire, au niveau des humanités, secondaire à l'université même, nous voyons que la jeune fille se donne et puis se distingue même. Mais quant à la formation professionnelle au métier, liée à la formation liée à la femme, à la femme ou aux hommes, la femme ne s'occupe que de formations à connotation féminine comme la coupe et couture, c'est pas mal du tout. Les hommes sont aussi là-dedans, mais des formations comme la maçonnerie et d'autres formations, l'ingénierie, d'une manière générale, les femmes s'intéressent de moins en moins. C'est ainsi que nous voulons encourager la jeune fille ou la femme en général d'embrasser ce type de formation. C'est important pour le développement du pays.
Avez-vous fait une enquête pour trouver les causes? Qu'est-ce qui fait en sorte que les femmes ne puissent pas s'intéresser à ces métiers?
Bon, en fait, c'est un stéréotype qui est véhiculé au niveau de la société. On considère que tel métier est réservé aux hommes. Est-ce que nous voulons vraiment lever ces stéréotypes? La femme ne peut pas considérer qu'elle n'est pas capable, elle est apte sur le plan professionnel à embrasser cela. Et nous voulons vraiment enlever ça de la tête de la jeune fille, qu'elle est à même de le faire comme nous faisons dans d'autres sites.
Alors, la campagne de sensibilisation en question, comment allez-vous mener ça dans la province du Maniema?
Oui, aujourd'hui il y a eu lancement, comme vous l'avez si bien constaté. Le maire de la ville est venu pour le lancement de cette campagne sur la promotion du genre et de l'inclusion sociale à la formation professionnelle. Le maire a lancé l'activité. Et les jours qui viennent, l'INPP va sensibiliser de plus en plus, aller dans des universités, dans les sites supérieurs, au marché même, dans les milieux publics pour vulgariser davantage, pour que la jeune fille ou la femme en général prenne en conscience que le métier est très important.
Votre sensibilisation ne va que se limiter aux jeunes filles et aux apprenants. Vous n'allez pas élargir cela même au niveau des parents, parce que quand les enfants étudient, il y a aussi une part de responsabilité pour les parents qui orientent aussi leurs enfants.
Oui, effectivement, c'est ce que nous devons réellement faire, parce que tout commence au niveau de la famille. On sait que la jeune fille ne peut pas faire tel métier. Là, il faut maintenant sensibiliser aussi les parents, que les parents sachent comment orienter leurs filles dans ce genre de métier. Des métiers qui se dit masculin. Nous allons sensibiliser les parents, c'est ainsi que vous allez nous voir dans le milieu public, au marché, dans plusieurs endroits, nous serons là pour sensibiliser les parents également, les grandes personnes et la communauté en général, pour comprendre que la jeune fille ou la femme en général est à même d'embrasser ces métiers.
Ça peut être même élargi même au niveau des professeurs, les enseignants.
Oui, tout à fait. C'est toute une éducation que l'on doit inférer à des jeunes filles, au niveau même maternel, même la petite fille, à bas âge déjà doit comprendre, et les parents doivent inculquer cela, qu'il n'y a pas de métier, qu'il n'y a pas de distinction dans les métiers.
Et quel est le message clé que vous amenez lors de votre sensibilisation?
Oui, le message clé est lié que la formation professionnelle n'est pas quelque chose que la fille ne peut pas embrasser, la formation professionnelle dans les métiers, relation masculine, que la jeune fille est aussi à même de le faire, comme toute autre personne. C'est ce que nous allons vraiment véhiculer.
Alors, un petit mot à tous ceux-là qui vous écoutent en ce moment.
Nous allons seulement inviter que les gens puissent, que ce soit une opportunité, parce qu'il y a une PP forme dans les métiers. Nous savons qu'il y a au total 84 métiers qui sont reconnus en RDC ici, et il y a même une loi qui est votée à ce sens. Et nous invitons la jeune fille et tous nos stagiaires qui viendront, nous allons continuer à les sensibiliser et qui saisissent cette opportunité pour aussi faire en sorte qu'elles maîtrisent ces métiers et de façon à ce que le pays aille de l'avant. Parce qu'ils doivent aussi mettre leur main d'association pour faire développer le pays.
Monsieur Hubert Tepatondele, je vous remercie.
Et c'est moi qui vous remercie, madame.
Hubert Tepatondele, directeur provincial de l'INPP, et Maniema, interrogé par Florence Kizalunga. C'est la fin de ce journal préparé par Jude Mister Bilanda avec l'apport de Vanessa Kongolo et de Jean-Claude Siala à côté technique. Merci de votre attention. Excellente dernière journée de 2025 et beaucoup de bonheur à vous ainsi qu'à votre famille pour la nouvelle année.